regreso a mi pueblo, no tengo este año la vida dada. Tenías al otro novio y ese era el hombre que amabas. A mí no me querías con este amor de la temporada. Tomé luego el caballo y de regreso a mi.
Mais Chantal, est-ce que toute cette envie de créer ce réseau pour concentrer les efforts à propos de l'enfance, elle partait d'abord de la situation des enfants au Costa Rica? Est-ce qu'il y a une situation particulièrement difficile? On a beaucoup entendu parler, en tout cas en Suisse, à Genève, de la situation des enfants brésiliens, des enfants du Nicaragua, Guatemala. Est-ce que la situation est tout aussi grave au Costa Rica, justifiant une intervention énergique?
Non, je pense qu'enfin, elle est grave, mais c'est certainement dans toute l'Amérique latine une des situations les moins graves. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que des idées peuvent aussi plus facilement se prendre corps au Costa Rica, parce qu'il y a déjà plus grande facilité. On est face à des moins grands problèmes, donc on peut peut-être avoir plus le temps les possibilités de projeter ailleurs des perspectives. Non, la situation de l'enfance au Costa Rica est moins grave parce que, comme on disait tout à l'heure, les gouvernants depuis plus d'un siècle se sont attelés en priorité au problème de la santé et de l'éducation. Donc là, il y a une couverture sanitaire qui est meilleure que dans beaucoup d'autres pays. Il y avait tout un programme pendant un moment de les médecins hors des murs. C'était une des premières expériences dans ce domaine où les médecins sortaient des hôpitaux pour aller dans l'intérieur, former des promoteurs de santé, etc. Et puis il y a aussi tout un travail au niveau de l'éducation, il y a des écoles partout. C'est assez même intéressant à voir en comparant avec d'autres pays d'Amérique latine, dans les petits villages, comment l'école est bien entretenue avec les fleurs balayées, etc. Et ça, c'est la communauté encore qui l'entretient, qui le fait, alors que ça, on le voit très peu dans d'autres pays où les bâtiments tombent, souvent ils sont construits puis petit à petit se dégradent parce qu'il n'y a pas d'entretien. Mais il y a des problèmes quand même au Costa Rica, puisque c'est un des pays, comme les autres, qui est touché par la récession, comme les pays du tiers-monde sont beaucoup plus touchés que les autres, avec la dette extérieure, les problèmes généraux. Donc on trouve au Costa Rica un problème des enfants de la rue, qui va en croissant dans les villes. Les problèmes des enfants, des jeunes filles qui sont mères très jeunes, 13 ans, 14 ans, quelquefois plus jeunes. Le problème aussi des enfants qui travaillent dans les familles, qui sont des domestiques exploités d'une certaine manière. Alors là, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent, et puis un certain nombre d'organisations tant gouvernementales que non gouvernementales qui essaient de trouver des réponses. Mais le problème est tellement vaste quand même que c'est difficile d'en trouver. Mais si on considère le problème de l'enfance en Amérique latine, en général, il est bien plus aigu encore qu'au Costa Rica. Donc quand vous parlez du Brésil et du Guatemala, ce sont effectivement, entre autres, des pays où la situation est terrible. Il n'y a pas d'autre mot. Alors c'est là qu'on essayait d'agir un peu en tant que réseau pour faciliter au moins la connaissance et si possible l'action en commun. Ce réseau avait aussi pour but que dans chaque pays, les gens qui travaillaient dans ce domaine puissent avoir un espace d'échange, de réflexion en commun, de pression en commun. Et c'est ce qui se passe par exemple actuellement dans une grande partie des pays sur la promotion de la Convention des droits de l'enfant. Et non seulement la promotion de la Convention en soi, mais d'essayer de faire de pression pour qu'il y ait une mise en application d'un certain nombre de ces articles, surtout ceux qui concernent le plus les réalités de certains des pays.
Je dois avouer que quand on entend parler de ces problèmes liés aux enfants, quand on voit ces scènes absolument monstrueuses qu'on a pu voir à la télévision sur le Brésil et le Guatemala, on se dit que quelque part, on ne trouvera jamais de solution. Parce que pour que des êtres humains prennent plaisir à torturer et à tuer des enfants, enfin plaisir, j'en sais rien, mais en tout cas le fassent, c'est que il semble qu'on ait dépassé des sortes de frontières de l'humanité qui semblent invraisemblables. Est-ce que vous, qui avez beaucoup travaillé dans ce domaine-là, et qui savez ce que les gens sur place ressentent et font, est-ce que les gens imaginent un débouché, une solution possible qui ne sera pas dans 100 ans ou avant que la moitié des enfants aient été tués?
Mais je crois qu'on a tous l'espoir que quelque chose change, mais en fait, le problème n'est pas que dans leur pays, il est aussi dans le nôtre, parce que le problème est beaucoup lié au déséquilibre mondial. Donc, il y a une action énorme à faire, autant chez nous au niveau politique, je veux dire général, plus global, que parce que le travail qu'on peut faire au niveau social, c'est quelque chose, mais c'est tout à fait limité s'il n'y a pas tout un changement des équilibres politiques, économiques dans le monde. Alors là, c'est le rôle de tous.
Ça veut dire de retour en Suisse, Chantal, vous avez bien évidemment continué à travailler sur cette question.
Bien évidemment. Il y a des jours où on a envie d'abandonner parce que justement on se sent trop impuissant face au problème, mais c'est quelque chose pour lequel il faut se battre.
Et par exemple en Suisse, alors sur quoi avez-vous décidé d'attaquer la question?
C'est pas toujours qu'on décide d'attaquer, ça dépend aussi de ce qu'on trouve comme emploi, parce que je suis revenue d'Amérique latine, j'ai pas forcément choisi exactement. Mais ça se trouve que je travaille actuellement au service social international et que là, j'ai effectivement la chance d'avoir un espace de travail qui m'intéresse et où je puisse agir. Alors, entre autres, je travaille sur les problèmes liés à l'adoption internationale, où là encore, il y a vraiment un travail à faire des deux côtés. Parce que j'ai travaillé entre autres sur la Roumanie, où on a vu aussi le rôle très néfaste que nos pays peuvent jouer par rapport aux situations dramatiques d'autres pays. Et si on prend le cas du Brésil, on a des cas assez semblables. Je veux dire que cette situation des enfants, bien sûr qu'on voit immédiatement la violence dans le pays même, mais cette violence, elle est souvent liée à des situations tellement difficiles du pays même et où aussi on peut intervenir. Je pense particulièrement, parce que c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, bien que je n'agisse pas dans ce domaine-là, c'est quand on parle de tout ce qui est l'exploitation sexuelle des enfants, où on exporte nos consommateurs dans ce domaine, dans un grand nombre de pays, entre autres d'Amérique latine. Et là, on a à agir aussi chez nous.
Tout à l'heure, vous avez évoqué ces jeunes filles, parce qu'on ne peut même pas dire femmes encore quand on parle de 13-14 ans, qui ont des enfants alors qu'elles sont vraiment des gamines encore. Oui. Est-ce que c'est dans les situations dont parlait Evelyne tout à l'heure qu'on retrouve à la campagne des histoires d'inceste et de violences sexuelles à l'intérieur des familles ou avec les jeunes filles se font violer quand même?
Oui, c'est beaucoup lié au problème d'inceste. Très souvent, on retrouve ça et c'est dans des familles, soit à la campagne, soit dans les villes, mais souvent des familles, effectivement, où il y a des problèmes économiques, des problèmes de cohabitation très, très forts, et puis d'éducation plus limitée que les problèmes se posent. Bon, il y a aussi peut-être des amours de jeunesse qui font... Que la fille est dans l'assaut sexuel et ensuite se retrouve abandonnée parce qu'effectivement, c'est toujours délicat les enfants en mariage, je veux dire. Alors là, il y a un certain nombre de jeunes filles qui ont ces problèmes-là. Et il y a beaucoup, il y a des essais d'information dans ce domaine fait par des médecins parce que justement, il y a un gros problème de prématurité, on dit ça dans les naissances chez les jeunes filles et les corps ne sont pas préparés, donc il y a beaucoup de problèmes chez les enfants à la naissance, même sans parler des risques d'abandon, parce que très souvent il y a abandon parce que c'est mal vu par la communauté, par la famille, etc., surtout quand c'est lié à l'inceste. Donc il y a tout un travail qui essaie de se faire dans ce domaine-là, d'éducation, d'information, mais qui est lié aux situations économiques aussi beaucoup quand même.
Mais qui est lié aussi à certaines situations psychologiques, parce que il est arrivé des cas comme ça chez nos psychologues dont on parlait tout à l'heure, elles ont pu remarquer qu'il y avait très grande difficulté de communication entre les mères et les filles au moment où il y a par exemple l'inceste. La mère difficilement acceptera le fait que sa fille a été a été violée ou a été violentée par son mari ou son compagnon ou son beau-frère ou etc., un des hommes de, du clan familial, la fille aura beaucoup de peine à avouer. On le sait même ici chez nous où il y a plus de d'éducation sexuelle, il y a plus d'ouverture, il y a plus de choses qui se passent, et combien c'est difficile ici aussi en Suisse, enfin ça les le viol secours là, on a souvent parlé de ces problèmes là oui. Combien c'est difficile pour une jeune femme ou une jeune fille de d'avouer, ou une enfant d'avouer que qu'elle a été violée. Alors imagine là-bas en Amérique du Sud où il y a une beaucoup plus grande encore méconnaissance de la sexualité dans l'ensemble de la population féminine et puis aussi masculine, je dirais, parce que les hommes connaissent peu les femmes et les satisfont mal et vice-versa. Les femmes ne se connaissent pas elles-mêmes, etc. Et il y a vraiment une mauvaise communication et une mauvaise connaissance générale de ces problèmes. Donc la fille, souvent, n'a pas été bien informée par sa mère, qui n'aborde pas trop ces problèmes de développement sexuel, de comment se protéger, etc. Comme si ça n'arrivera pas si on n'en a pas parlé. Alors qu'évidemment, comme tu dis, il y a ces amours de jeunesse. Oui, on a un bon ami, etc. Et puis bon, ça arrive et après... C'est le drame parce que rien n'a été préparé pour ça, et ça, des fois, je sais pas moi, 5 minutes d'abandon apporte des conséquences pour 20 ans. C'est tellement disproportionné justement aussi ces questions-là, que hein, ce fait-là que il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Et justement dans le cas de ces femmes qui étaient leaders de la communauté, qui ont travaillé dans ce séminaire, il est apparu beaucoup de ces problèmes-là. Et il a apparu par exemple le fait que souvent ces femmes étaient très tristes quand elles mettaient au monde une fille, en pensant déjà à la vie difficile que cette fille aura, et préféraient souvent voir des garçons, pas parce qu'elles n'aiment pas les filles, mais parce qu'elles avaient peur à l'avance, elles se désespéraient à l'avance de la vie que pourrait avoir cette fille en pensant à la leur, etc.
Oui, parce que c'est vrai, bon, le terme machismo, comme on sait de cette région, où les hommes ont les droits et les femmes doivent se plier au désir des hommes. Alors, bon, même si c'est peut-être un peu moins fort au Costa Rica que dans d'autres pays, ça existe aussi, je pense, très fort, surtout dans certains milieux. Et c'est vrai que l'information des filles est très, très, très réduite.
Pardon.
Non, je me souviens une fois d'avoir été en contact avec une jeune fille qui est revenue un matin complètement ravagée et qui avait été battue. Et je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, c'est mon frère qui est rentré ivre. Et bon, apparemment, il avait besoin de se défouler sur quelqu'un. Et je lui dis, et alors, qu'est-ce que tu as fait? Oh, ben, c'est mon frère. C'était, puisque c'était son frère, en fait, ben, il n'y avait plus rien à dire. Ouais. Alors, c'était...
Mais toutes les deux, vous avez rencontré ou vous avez travaillé, Chantal, je crois que vous travaillez avec, vous l'avez dit tout à l'heure, Christina, cette costaricaine, qui, et tu l'as aussi rencontrée, Evelyne, je crois, qui justement a entre autres à l'intérieur d'une fondation qui a pour nom, je n'ose pas le prononcer en espagnol, je vous laisse le faire.
Action Ja.
Voilà, de l'action tout de suite, on pourrait traduire quelque chose comme ça. Entre autres consacré un des programmes de la fondation, parce que je crois que c'est pas du tout le seul, mais un des programmes a justement aidé ces jeunes filles qui ont des grossesses non désirées, qu'elles soient dues à un problème de violence sexuelle comme l'inceste ou bien à des histoires de bonne amie comme vous disiez. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on leur propose, quel est le but de ce programme et comment peut-on aider ces jeunes filles? En fait, l'idée c'est qu'elles n'abandonnent pas leurs enfants en tout premier.
Oui, l'idée c'est qu'elles n'abandonnent pas leurs enfants. Essayer de garder l'enfant avec sa mère. Donc, c'est bon, il y a des homes qui sont organisés pour recevoir ces mères, ces jeunes mères, enfin, avant l'accouchement et dans les premiers temps après. Et là, ce qui est très intéressant au Costa Rica, c'est qu'il y a une recherche de participation de la communauté, c'est-à-dire de prise en charge aussi par la communauté environnante de ce problème. Donc, il y a des associations qui se créent dans des quartiers ou entre des personnes qui sont amies, etc., pour soutenir ces foyers. C'est-à-dire essayer, c'est des groupes qui s'organisent pour essayer de trouver un médecin qui viendra donner les soins gratuitement, pour trouver des apports alimentaires, pour trouver un service dans la maison qui soit gratuit ou une maison gratuite, etc. Donc là, il y a toute une mobilisation communautaire pour résoudre ces problèmes, parce que sinon ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec un appui de l'État, qui souvent ne peut pas le faire, ou à un niveau très réduit, ou des appuis extérieurs qui ne durent pas. Alors, il y a toujours à la base un appui extérieur ou un appui de l'État, mais on essaie d'avoir une espèce de mobilisation de la communauté environnante pour donner un appui. Dans ces centres aussi, ce que les Costa-Riciens essaient de faire, c'est d'abord de reprendre contact avec les familles pour essayer de discuter, pour voir si vraiment il n'y a pas une possibilité de réintégrer la jeune fille dans sa famille pour qu'elle soit, elle retravaille auprès des parents directement ou auprès de la grand-mère ou auprès d'une tante pour lui redonner un foyer, un appui. Il y a aussi tout un travail au niveau de l'éducation sexuelle, de l'éducation au niveau de la prise en charge des enfants, etc., pour les préparer à assumer leur rôle. Un appui au niveau de la formation professionnelle pour qu'elles puissent aussi avoir un emploi quand elles sortent. Donc ça touche différents aspects de leur vie.
Pour notre esprit bien européen, l'idée de proposer à une jeune fille de 10, 12 ans ou disons 11, 13 ans ou 14 ans de garder un enfant quand elle est enceinte, c'est quelque chose qui paraît assez impressionnant. Enfin, je me dis, mais comment une gamine de 13 ans va pouvoir prendre en charge un enfant ? Est-ce à dire que soit la famille va vraiment l'aider avec elle à garder cet enfant ? C'est ça le but du travail de l'association. Et puis, est-ce que parce qu'on ne peut jamais imaginer, par exemple, employer l'avortement, par exemple ?
Mais c'est que la connaissance de la grossesse souvent est trop tardive.
La gamine cache jusqu'au dernier
bien
moment.
Sûr, hein, c'est 6 mois, 7 mois. Elles s'approchent de la fondation vraiment très peu de temps avant l'accouchement. Oui. Donc c'est déjà de toute façon trop tard.
Oui, parce que souvent elles le cachent déjà à leur propre famille. Et puis déjà, il faut qu'elles comprennent qu'elles sont enceintes. C'est déjà aussi une première chose. Et puis plus, l'Église est là pour veiller à ce que l'avortement ne soit pas une pratique facilitée. Alors, c'est vrai aussi que chez nous, 12-13 ans, c'est difficilement envisageable. Mais en Amérique latine, on a les enfants qui sont, bon, peut-être pas au Costa Rica à 5 ans, mais un certain nombre de pays à 5 ans, ils sont déjà dans la rue à gagner leur vie. Bon, en tout cas, au Costa Rica, 7-8 ans, il y en a qui commencent à être dans la rue pour se débrouiller, pour gagner leur vie, qui travaillent avec leurs parents, parce que beaucoup de familles tournent, parce qu'il y a aussi un travail des enfants qui se fait en parallèle à l'école. Dans certains autres pays, les enfants ne vont déjà plus à l'école, ils passent leur temps à travailler. 12-13 ans, ce n'est pas non plus la même chose que chez nous. Et c'est vrai que le projet, c'est quand même de les rapprocher d'une famille pour qu'elles aient un accompagnement. Autant que possible, qu'elles ne soient pas complètement isolées ou qu'elles puissent se regrouper ensemble ensuite. Mais je voulais aussi dire quelque chose parce qu'on ne parle que des problèmes. Moi, dans mon travail au Costa Rica, qui n'était pas trop centré sur le Costa Rica, j'ai quand même eu l'occasion de travailler avec des femmes que je considère parmi les plus libres, fondamentalement, en elles-mêmes, que j'ai rencontrées. Entre autres, par exemple, Christina.
Ça, c'est vrai, oui.
Ce sont des femmes qui vraiment ont pris leur vie en main d'une façon.
Quand elles se sont libérées, elles sont vraiment très libres. Ah oui,
très libres et elles sont des femmes qui agissent de façon très très intéressante au niveau qui souvent sont dans différentes choses, dans des actions comme celles qu'on nomme, dans des partis politiques à la fois, dans des recherches philosophiques, etc. C'est assez impressionnant.
Et puis celles-là, elles sont vues comment par leur entourage? Alors, on les accepte quand même, par rapport à ce que vous disiez au tout début.
Ça dépend. C'est vrai que ça dépend des familles aussi. Certains, dans le cas de
Christina n'est pas une anormale, comme vous disiez tout à l'heure.
Non, mais elle a une famille.
Christina, elle est tolérée parce qu'en fait, Christina, elle a une famille qui est dans certains côtés très proche du pouvoir. Donc elle a une espèce d'espace de liberté aussi parce qu'elle est proche du pouvoir, bien qu'elle ne l'utilise pas. Mais on tolère, comme on dit, nous on disait la brebis galeuse, eux ils disent la ovéra negra, on tolère une originale. Hein. Elle est un peu considérée comme, par certains membres de sa famille comme une originale. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres qui... comment je dirais, n'oserait peut-être pas prendre des positions aussi affirmées qu'elle, mais la soutiennent en fait parce qu'elle aimerait bien que des choses se passent dans le sens où elle a le courage d'aller. Donc il y a il peut y avoir aussi un espèce de soutien discret ou qui dit pas son nom mais qui existe quand même.
Mais il y a des oppositions très ouvertes aussi parce que Christina par exemple a été en charge d'un poste très haut placé au pouvoir. Elle s'est attaquée à certains problèmes et elle a été très très férocement même attaquée. Donc c'est quand je dis libre, c'est qu'elles assument leur liberté jusqu'au bout aussi, qu'elles sont prêtes à affronter certaines luttes honnêtes ou malhonnêtes pour atteindre ce qu'elles veulent défendre dans leur vie personnelle comme dans leur vie professionnelle.
Mais quand tu dis on ne parle que des choses problématiques, mais n'empêche qu'il a l'air de se passer beaucoup de choses au Nicaragua et je trouve que...
Costa Rica.
Non mais vraiment, ça
c'est vrai qu'il s'en passe aussi au Nicaragua, mais là...
Oui. Ils s'en passaient particulièrement beaucoup.
Faut que je m'excuse auprès de nos auditrices. Décidément, le rhume me monte au cerveau, c'est le cas de dire. Ça va très mal ce soir. Mais donc, il a l'air de se passer beaucoup de choses au Costa Rica. Et finalement, on y voit que l'énergie de beaucoup de femmes et d'autres gens. Donc ça,
mais
c'est
le
pas...
président aussi, un des présidents, le prix Nobel de la paix. Mm-hmm. Ça aussi, c'est important. C'est ce qui a fait connaître souvent un peu le Costa Rica ici en Europe.
Oui, puisqu'il a fait une recherche de paix en Amérique centrale, qui est une zone particulièrement explosive. Et c'est là qu'on retrouve aussi le Costa Rica comme un des pays un peu particuliers dans cette région-là, pour être un moteur de la paix, alors que c'est tellement difficile à trouver dans la plupart de ces pays proches.
Entre autres, d'accueil de nombreux réfugiés, vous disiez.
Entre autres, d'accueil de nombreux réfugiés de toute l'Amérique latine. Il y avait des Chiliens, des Péruviens, des Guatémaltèques, etc., qui sont là, qui se sont bien intégrés, bon, parce que la langue déjà est semblable, la culture est assez proche, et qui participent à la vie du Costa Rica.
En plus, pour aussi me référer à l'idée du réseau que vous avez créé, Chantal, je crois qu'est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui semble très positif en Amérique latine et centrale et qui existe tellement plus difficilement chez nous, c'est l'idée qu'on peut avoir des choses à échanger, à partager, à s'aider parmi, même si on vit dans des réalités qui parfois sont assez différentes. Mais moi, j'ai un peu participé à des réseaux de femmes au Brésil et je sais qu'aujourd'hui, elles sont en connexion avec, moi je ne sais pas, des centaines d'autres relations, de groupes de femmes dans toute l'Amérique latine. Il y a des liens très très forts qui unissent ces associations tout au sein de l'Amérique latine. Est-ce que c'est aussi un peu le cas au Costa Rica de ce point de vue-là?
Je pense que c'est le cas en Amérique latine. D'abord, c'est aussi une affirmation de l'identité latino-américaine, entre autres par rapport à nos pays, par rapport aux États-Unis, contre lesquels ils doivent s'affirmer assez souvent. Donc là, il y a une recherche d'unité qui en même temps cache quand même beaucoup de divisions, il ne faut pas se faire trop d'illusions, mais il y a une recherche d'identité latino-américaine qui passe par ces échanges et par ces connexions, qui très certainement.
Alors, peut-être pour conclure, je vais laisser la parole à Evelyne et Chantal parce que c'est elles qui connaissent le Costa Rica. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Evelyne, que dirais-tu pour conclure?
Ah ben, je dirais que c'est un pays, de toute façon, c'est un pays merveilleux du point de vue de la géographie, par exemple. Je me souviens d'avoir, c'est un très petit pays, mais qui sépare l'océan de l'Atlantique du Pacifique. Donc on peut aller baigner les pieds dans l'océan Pacifique, ou bien on peut aller regarder du côté des Antilles en très peu de temps. C'est un pays qui prend beaucoup de soin de son écologie, disons, pour utiliser un terme courant maintenant ici. Par exemple, il y a beaucoup de réserves naturelles protégées par l'État. C'est d'ailleurs, je crois que proportionnellement, c'est le pays qui en a le plus au monde, qui fait donc beaucoup d'efforts pour protéger des zones volcaniques, des forêts tropicales humides, tout ce qui n'est pas vraiment destiné à l'agriculture ou à l'élevage, essaye d'être protégé. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait quand même un certain rendement économique de ces zones, qui sont assez grandes, on essaye d'y pratiquer de plus en plus un tourisme doux, disons, qui est un peu où on peut avoir un peu d'aventure, mais en même temps où on a un grand respect de la nature qu'on visite et de la faune aussi qu'on peut y voir. On peut voir des singes, des perroquets, enfin beaucoup de très très belles choses.
Des vaches dans la montagne. C'est la Suisse et l'Amérique centrale.
Alors ça, je trouve que c'est aussi un des aspects du pays qui est très intéressant. Cet intérêt, cet éveil des autorités pour améliorer autant que possible toutes ces choses-là. Alors ça, c'est sur des aspects très positifs. Il faut aller là-bas. Il faut aller voir toutes ces femmes et puis ces hommes qui se donnent tellement de mal pour améliorer les choses.
Chantal ?
Oui, moi je dirais aussi que c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Bon, par sa géographie, mais aussi pour les personnes que j'ai pu y rencontrer, avec qui j'ai pu travailler. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était un peuple à la fois pudique et chaleureux. Et où il y a quand même une certaine recherche. C'est vrai, moi, j'ai vécu dans une période un peu difficile, qui était le moment où il y avait les problèmes très forts au Nicaragua. On y vient, enfin, au Nicaragua. C'est-à-dire où il y avait justement les sandinistes au pouvoir, où il y avait donc une certaine partie des résistants au pouvoir sandiniste qui étaient au Costa Rica, et où les États-Unis, malheureusement, avaient un œil sur le Costa Rica très fort par rapport à leur lutte contre le pouvoir nicaraguayen. Alors là, il y avait une espèce de dégradation qui était perceptible, moi, sur les années où j'y étais, qui était assez triste. Et maintenant que les choses ont changé, peut-être que le Costa Rica a retrouvé une certaine tranquillité parce qu'on doit moins lui attacher d'importance et qu'il peut retrouver sa propre dynamique interne dans ce domaine.
Evelyne et Chantal, encore mille merci de nous avoir fait découvrir ce petit pays dont on n'entend parler que trop peu souvent. Et grâce à vous, on a découvert une certaine réalité, entre autres celle des femmes. Merci. Chantal, est-ce qu'on peut peut-être se dire qu'un jour vous viendrez nous parler de l'adoption internationale ?
Bien sûr, oui. Avec plaisir.
Alors, et bien voilà, aujourd'hui Remue Ménage c'est terminé. Notre Costa Rica que nous avons découvert sous un autre aspect, ce pays dont on parle pas très très souvent. Nous en avions parlé récemment à propos des radios de femmes internationales avec Marie, radio en ondes courtes, mais nous avons eu un autre aspect aujourd'hui. Avant de nous quitter, j'aimerais vous parler d'une information importante. Rappelez-vous l'affaire du médecin conseil à l'hôpital cantonal de Genève. 4 femmes avaient déposé plainte pour harcèlement sexuel contre leur chef. Le Conseil d'État, la personne de M. Vaudeau, a rendu un jugement sur la question, innocentant complètement M. Duboulot, le médecin conseil, mais décidant par ailleurs de reformer et de reconstruire le service. Or, et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe, que devient Monsieur Duboulot, est-il déplacé ailleurs, et que deviennent les plaignantes, ont-elles l'assurance de retrouver du travail quelque part? Certaines ont demandé leur transfert, dans d'autres postes l'ont obtenu, d'entre elles, d'autres ont de grandes difficultés à retrouver un poste de travail à leur satisfaction. Alors, le comité contre le harcèlement sexuel appelle toutes les femmes et les hommes qui soutiennent leur cause, et cette cause précisément, à venir à la séance du Grand Conseil du vendredi 11 juin dès 17h. Parce que ce soir-là, une députée du Parti Socialiste, Maria Roth, va faire une interpellation au Conseil d'État, à M. Vaudeau principalement, pour lui demander des nouvelles de cette affaire. Elles ont besoin de votre soutien. Venez donc nombreuses à la tribune du Grand Conseil. Vous le savez bien, les séances du Grand Conseil n'ont pas de programme annoncé à l'avance. Il est donc difficile de dire exactement à quelle heure passera le sujet en question. Si vous pouvez venir à 17h, c'est le début de la séance, venez. Mais si vous pouvez venir à 18h ou 19h, venez quand même. Peut-être que la question n'aura pas encore été traitée. Si jamais elle l'était, quelqu'un vous avertirait à l'entrée de la salle. Alors je répète, venez nombreuses à la tribune de la séance du Grand Conseil du vendredi 11 juin dès 17h pour soutenir la députée du Parti Socialiste qui interpellera le Conseil d'État et principalement M. Vaudeau à propos de la suite des événements de la plainte portée par 4 femmes contre le médecin conseil de l'État. Voilà, Remue Ménage pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Radio Zone, Ondes Femmes 93.8.